C'était dit rendez-vous dans 10 ans.
Je suis Buzz.
Buzz.
Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps ?
Rétro Buzz !
Rétro Buzz, la tendance avec 10 ans de retard.
10 ans ! Mais c'est énorme !
Buzz White. Buzz White.
Tout ce que tu fais n'a pas de grave répercussion sur le futur.
Buzz White.
Présenté par Pierre-Adrien,
Adriana,
FX,
Enzo
et Roman.
Buzz White.
Chaque mois, retour sur les buzz d'il y a 10 ans.
Maintenant, il est bloqué dans le passé.
Que sont-ils devenus ?
Existent-ils toujours ?
Réponse tout de suite dans Rétro Buzz.
Merci, oui. Merci à tous pour cet accueil mémorable.
Rétro Buzz, l'émission qui suit la tendance avec 10 ans de retard. On se retrouve comme toujours sur Prune tous les 3e jeudis de chaque mois de 13h à 14h. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? L'équipe de Rétro Buzz s'agrandit encore ? C'est ça ?
Ouais.
Tous les mois, oui. C'est ça ? Il va y avoir quelqu'un de
nouveau ? Non, ça va s'arrêter au bout d'un moment.
Ça va s'arrêter ? Attends.
Plus chaque mois.
C'est quoi le projet ? C'est d'être aussi nombreux que le 15 de France ? Genre au moins 8, c'est ça ? Hein ?
Ouais.
Ouais.
Je sais pas,
plus.
Je connais rien au
tennis.
Bon, alors, c'est notre nouveau demi de mêlée. J'ai fait un peu de recherche sur l'ordi. C'est notre nouveau demi de mêlée, voire notre trois quarts centre.
Ah oui.
Et oui, un trois quarts.
T'as vraiment fait des recherches.
Ok. J'ai pas encore décidé parce que de toute façon, moi, j'y connais pas grand-chose à tout ça avec les ballons chelous là. Il est jeune et fringant, et en plus, il est étudiant. Bienvenue à toi, Enzo. Comment ça va ?
Ben merci, ça va super. J'y connais rien non plus au rugby.
C'est vrai ?
Ouais, tu sais pas si c'est un bon poste.
Non, franchement, non.
Oh, ok. Bon. Okay.
Eh bien, sans ces micro-trottoirs, l'émission ne serait rien. Ne serait pas la même.
Ça, c'est vrai.
C'est PA.
Merci, c'est gentil, Enzo. Merci. Elle illumine l'émission de sa présence et gère aujourd'hui la technique pour la toute première fois. Adriana, comment ça va ?
Très stressée.
Je ne mets pas la pression.
C'est la deuxième voix féminine, c'est la femme qui m'a tout appris et qui va m'aider aujourd'hui. Romane est là.
Oui, je suis là, très contente d'être là, très contente de te laisser la main aussi pour cette émission. Et enfin, on vous présente la dernière personne de cette émission. Il s'est couché à 3h du mat pour nous proposer une émission toujours plus cool et rythmée de bonne humeur parce que c'est ce qui compte le plus chez lui dans son quotidien, la joie de vivre. Vous l'aurez reconnu, je vous présente FX. Ça va ?
Ouais, merci, Roman. Merci beaucoup. Et ouais, 3h du mat. Je fais ça, moi. Je prépare des émissions
avec sérieux, jusqu'au bout, quoi.
Mais bien sûr. D'ailleurs, avec sérieux, tellement avec sérieux que je vais vous demander de présenter le concept de cette émission parce que moi, je suis trop crevé. Présenter le concept de cette émission à nos auditeurs et auditrices. Alors, qui c'est qui le connaît bien ? Qui c'est qui va le dire ? Qui c'est qui va expliquer ? Est-ce que Enzo, toi, tu serais capable d'expliquer le concept de cette émission ? Est-ce que ça serait pas un bon lancement, ça, pour te dire ? Mais en fait, vas-y, lance-toi un petit peu en radio, Enzo.
Eh bien, le principe de cette émission, donc, diffusé tous les 3e jeudi du mois sur Prune de 13h à 14h. Le but est de revenir sur les événements, les tendances d'il y a 10 ans, donc tous les mois sur Prune.
Mais c'est super.
C'est exactement ça.
Et toi, sans te coucher à 3h du coup ?
Une heure.
Ah ouais, quand même. Tu m'apprends parce que, ouais,
c'est un étudiant, il sait gérer son temps, je pense.
Ah, c'est ça.
Absolument pas.
Ah non, c'est faux.
Bon, bah...
Ok.
On va y aller.
On va y aller.
Pour commencer, on va faire un petit tour rapide de l'actualité de février 2012. Et puisqu'on a une nouvelle équipe, et ben moi, je propose une nouvelle rubrique.
Rétro Flash, c'est l'heure du Rétro Flash.
Ah bah c'est des actus avec 10 ans de retard alors. Ah bah d'accord.
Oh là là, c'est le jingle. Il tardait à se déclarer et il s'est enfin lancé.
Eh oui, tout à fait, PA. On l'attendait tous et il s'est enfin lancé. Mais qui ça ? Sarkozy ? Sarkozy, évidemment. On est en 2012, je vous le rappelle. Et je vois pas à qui vous pensiez. Hein ? Est-ce que vous pensiez à Macron ?
Oh non.
Non.
Non, non, il avait 30 ans.
Il était pas né.
Bon, en fait, bah, j'espère que Macron va pas se déclarer d'ici la diffusion de cette émission, sinon la blague elle va tomber à l'eau. Bref, Nicolas Sarkozy, en tout cas, il avait mis les formes en 2012. Il avait fait un 20h face à Laurence Ferrari le 15 février, et on l'écoute.
Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle.
Depuis quand avez-vous pris cette décision ?
Depuis plusieurs semaines.
Merci Nico. Voilà. C'est comme ça qu'on se déclare candidat à l'élection présidentielle en 2012.
En répondant à une question. Oui.
Exactement. Voilà. Trois mots. C'est le fun, hein ? Vous aimez bien ?
Ça, c'est du buzz, hein, quand même.
Bien sûr. Le lendemain, il attaquait directement avec sa campagne à Annecy, avec un niveau de lucidité particulièrement remarquable.
Le peuple français, il est libre, frondeur. Personne ne lui dit ce qu'il a à faire, ni moi ni les autres. Donc faites leur confiance, ils décideront.
Ils ont souvent déjoué les pronostics, les Français.
Écoutez, ils ont toujours déjoué les pronostics.
Eh oui, ils ont bien déjoué les pronostics, les Français et les Françaises. Et je sais pas vous, mais moi j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'ils déjouent aussi ceux de cette année 2022.
Son ennemi, c'est la finance. Il était bien déterminé à clasher les traders.
En effet, Roman, François Hollande avait déclaré que la finance était dans son collimateur en janvier. Alors il est allé directement dans le cœur de la bête en février. Et le 29 février 2012, quand un journaliste anglais lui demande « Quel est votre message pour la City de Londres ?», voici ce qu'il répond.
We must have regulation.
We must have regulation.
Ah, voilà. C'est ça qu'il a, j'ai pas compris.
C'est ça qu'il a dit. Alors on doit réguler, voilà. En anglais en plus. Bim, prends ça dans tes dents, le monde de la finance. Bon, en fait, il n'a pas vraiment régulé grand-chose hein, depuis. À l'époque, on y croyait. Mais d'ailleurs, moi, je me demande si on ne va pas se lancer dans les NFT à RetroBuzz.
Oula.
Pourquoi?
Bah parce que c'est tout ça, c'est de l'argent, c'est de la finance. Moi, j'aimerais bien avoir des émissions qu'on achète en NFT avec tes bitcoins, tes dogecoins, tes rétrocoins.
Ça se trouve, ça coûterait cher. Enfin, ça serait
RetroBuzz coin.
Bah, bien sûr, on fait des RetroBuzz coins, non?
Ça aurait une grosse valeur.
Hein. Bah, j'espère bien, ouais.
En 2012, aussi étonnant que ça puisse paraître, en hiver, il faisait froid, et oui.
Et oui, effectivement, Enzo. Et ça a eu un impact sur notre consommation d'énergie, comme nous le disait David Pujadas le 7 février sur France 2.
Ce sont les conséquences de ce froid glacial qui occupe le devant de l'actualité. Avec cette information, jamais EDF et RTE n'avaient été en flux aussi tendu. Le record de consommation d'électricité frôlé hier a donc été battu.
Il a donc fait froid, très froid même. On a beaucoup chauffé dans les habitations, donc on a beaucoup consommé d'électricité, donc on a fait appel au nucléaire, à l'éolien, aux centrales à charbon même. Et puis le réseau, bah, finalement, il a tenu bon hein, en 2012. Pas d'inquiétude d'ailleurs, la consommation mondiale d'énergie n'a jamais cessé d'augmenter depuis. Mmh. Attendez, si, en fait, si, elle a baissé. Elle a baissé de 4% pendant la pandémie, selon l'extracteur de pétrole BP, qui a fait un rapport en 2021. Et puis, ça a même fait chuter les émissions de CO2, tiens, de 6%.
Incroyable.
Une bonne nouvelle.
Et oui, BP a même ajouté, donc c'est un extracteur de pétrole hein, qui a ajouté, ce niveau de baisse des émissions correspond à ce que le monde devrait accomplir en moyenne chaque année durant les 30 prochaines années pour être en bonne voie d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Ça fait plaisir, hein. Ouais. Mais bon, hein, on verra plus tard, il y a une économie à relancer et c'est pas comme si les 7 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées.
Avant de terminer ce rétroflash, on va parler de journalisme de solution, non ?
Mais oui, Adriana, on va résoudre des problèmes avec cette petite pépite que j'ai trouvée, toujours sur France 2, diffusée le jour de la Saint-Valentin en plus. Je crois que ça n'a aucun rapport d'ailleurs, mais bon. C'est parti pour un grand reportage.
Un froid glacial dans une petite ville en Pennsylvanie, mais pour ces deux proviseurs, ce n'est pas une excuse pour sécher l'école. Dans leur établissement, ils ont fait baisser de 30% l'absentéisme des élèves avec une méthode extrême. La mère de cet enfant de CE1 a passé 24 heures en prison parce que son fils manquait trop la classe, sans raison valable.
Eh ben voilà la solution.
Je ne m'attendais pas du tout à toi.
Je l'avais pas là.
Eh ben en 2012, on en avait des idées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bonne idée ?
Attends, tu nous redis le truc. C'est la mère, elle est en prison parce que son fils a séché les cours.
Exactement.
Parce qu'il faisait trop froid, donc des fois, ils n'emmenaient pas leurs enfants à l'école. Ben oui. C'est pas cool, non.
Ça, c'est une bonne idée américaine. On met les parents en prison quand les enfants sont absentéistes. En tout cas, moi, je trouve qu'on n'est pas si éloigné de l'humeur de 2022 avec des solutions qui culpabilisent, encore une fois, les plus faibles. Ambiance.
On écoute quoi, là ? Rétro-buzz !
Eh ben, c'est à moi. Allez. Eh ben, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau buzz. Je ne sais pas si vous aviez eu le temps de checker mes petits mots. Je rappelle mes trois mots du jour. Il y a femme, film et Londres. Je vous demande pas votre avis. Pour l'instant, je n'ai pas envie que vous spoiliez les auditeurs.
Les auditrices. C'est ça, en fait, c'est les gens qui nous écoutent
ça,
sur des auditeurs.
C'est vrai. Donc, pour ce nouveau buzz, je vous propose de revenir sur un format que j'aime bien. et qui va devenir un grand classique de cette émission, je vous propose un blind test.
Oui, c'est le rétro blind test. Rétro blind test. Rétro blind test. J'ai trouvé.
Déjà, première question, est-ce que vous êtes remis de votre défaite, ou plutôt de votre grand succès de la dernière fois, ou ça va, du mois dernier?
En vrai, je ne sais plus qui avait gagné l'année dernière.
C'est moi qui avais gagné.
Le mois dernier. Oui, alors c'est pour dire. Ah ouais. Quelqu'un a écouté Etta James ici, depuis?
Ah oui, c'était Etta James. non.
Non.
Non, mais du coup, ça m'a... Enfin, du coup, j'ai appris. Ah, donc, c'est merci. Buste, ouais.
Très bien. Et pour ta défense, tu n'étais pas encore dans l'émission, donc tu n'as pas pu jouer avec nous le mois dernier. Bon, espérons que cette fois-ci, vous allez vous battre pour donner la bonne réponse.
Ah, carrément.
Allez.
Ok.
Eh ben, on écoute un premier son. C'est parti. Je veux au moins l'artiste. I can fly you to your loved ones, but I can promise no return to a shell shock godforsaken. Ouais, voilà. Allez, ça réfléchit là.
C'est Madness.
Oui. Oh, alors, c'est
la basse.
C'est la basse.
Ouais, okay. C'est pas le titre le plus connu de Madness. Non.
Effectivement, mais il y a un sens. Alors, j'ai oublié de préciser, effectivement, l'objectif pour vous, premier objectif, vous trouvez les artistes. Ok. Ce qui peut vous aider encore plus, trouver les titres des chansons. Et là, je vous en demande beaucoup, j'en ai conscience. Parce qu'effectivement, vous l'aurez deviné, c'est pas juste un blind test pour s'amuser, c'est que tous ces artistes et ces titres de chansons vont vous aider à trouver mon buzz d'il y a 10 ans.
10 ans, voilà. Oui, bien sûr.
Il y a quand même un sens à tout ça. Donc, c'était bien Madness. Donc, il n'y a que 3 sons, hein, donc il faut vraiment être inquiète.
Okay.
Madness, je vous donne le titre, parce que je pense que ça peut vous aider, mais pas vraiment. Pas trop d'un coup, donc le titre c'était Blue Skinhead Beast. Voilà.
Y en a qui prennent des notes, quoi, carrément. Ouais.
Attends, moi je note.
Mais en fait, il y en a qui veulent gagner.
C'est la compétition.
Voilà. C'est la compète. Ouais. Deuxième titre, attention, ça peut, en fait, plus les titres vont passer, plus ça peut vous aider. Donc là, c'était un peu le plus difficile. Le deuxième, on écoute ça, c'est parti. Have a wonderful
dream. Michel Sardou.
Le début des lacs du Connemara.
Ouais.
MC Jean Gabin.
Non,
vous
mais
vous
non.
Fatiguez, écoutez.
Oh, c'est Etta James, ça va.
Les Beatles.
Non.
David Bowie.
Non.
On dirait.
Écoutez les paroles, ça peut vous aider. Bon,
Là, c'est de la guitare. When will you die? Pete Doherty.
Non.
Les Libertines.
Non.
Les Baby Shambles.
Non.
Ah bon? Il a d'autres groupes?
Oui, mais non. Ça n'a pas de rapport avec Pete Doherty.
Ah bon? C'est les Arctic Monkeys.
Pas du tout.
C'est anglais.
Adriana, une petite idée?
Ouais, c'est anglais, je pense.
Pas du tout.
Alors oui, alors merci, c'est anglais, effectivement.
Ouais, de rien.
Je vous rappelle que dans mon mot, il y a quand même Londres. Dans mes 3 mots.
Oui,
c'est vrai. J'ai oublié.
C'est peut-être pour ça qu'on avait l'intuition.
C'est ça.
Un londonien. C'est Sex Pistols.
Non. Eh bien, écoutez, vous donnez votre langue.
Non, ouais. Non, franchement, je l'ai pas.
On écoutait Morrissey.
C'est qui?
J'ai même pas envie de te répondre. Chanteur des Smiths, voilà, artiste masculin assez connu. Bon, qui s'est révélé être raciste, mais on passera sur cette news. C'est pas pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Okay. Morrissey, cette chanson, je vous donne pas le titre tout de suite, parce que ça va peut-être un peu trop vous aider.
Ah bah d'accord.
Voilà, mais on écoutait Morrissey, et vraiment, parce que la dernière, c'est plus qu'un indice, c'est quasiment la réponse à la question globale de quel est mon thème. Donc voilà, je vous propose d'écouter la dernière et là je veux que vous vous battiez pour répondre.
Mais on se bat là en fait.
Allez.
Ouais. Ok, téléphone.
Non.
Renault,
ouais. Oui. Le nom de la chanson?
Madame Margaret Thatcher, Miss Thatcher, Madame Thatcher.
Je veux le nom exact.
Miss Margaret Thatcher.
Non, presque.
Miss Maggie.
Miss Maggie. Oui. Donc voilà, donc
quand même dit téléphone, hein.
On avait.
Désolé. Non mais je voulais.
On avait Madness, Blue Skinhead Beast, Morrissey, Margaret on the Guillotine et Miss Maggie de Renaud. Voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu plus de lien avec mon actu
film,
film Femme Londres.
Bah, c'est un film sur Margaret Thatcher.
Oui.
Ah oui.
Oui. Oui. Vous l'avez vu ou pas?
Bah non. Non. Je sais pas.
Non.
Qui s'appelle
C'est ça me dit rien. C'est quoi?
Qui s'appelle Rio Kazak.
Avatar.
Non.
Ah bon, oui, le Blue Skin.
Emily Paris.
Emily Paris.
Paris.
Margaret in Paris. Non. Alors. Sorti le 15 février 2012 en France, je veux bien sûr parler de The Iron Lady ou La Dame de Fer pour les non-anglophones.
Ah oui,
ben non, je ne l'ai pas vu.
Film sorti donc en février 2012. film réalisé par Phyllida Lloyd avec donc Meryl Streep, Jim Broadbent, Antonio Stewart Head ou encore Olivia Colman. Le synopsis, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, apparemment personne ne l'a vu ici, voilà. Je vous apprends des trucs, en fait, j'aime
mais
bien.
À chaque émission,
mais toi, tu l'as vu ou pas?
Oui, je l'ai vu.
Ah, toi, tu l'as vu.
Mais toi, tu l'as vu ou pas? Oui, monsieur, oui,
ah,
je l'ai vu.
Bon, bah, très bien.
Donc, le synopsis, vie et fin de vie, surtout de Margaret Thatcher. Dans le film, donc, ça débute, donc on la voit, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle se remémore tous les instants qui ont fait sa vie, de ses parents épiciers à sa première élection à la Chambre des communes, si de son mariage.
En fait.
Oh là là.
Dans un avion, il va nous ressortir le décode de l'avion.
Non. En vrai, oui, c'est l'Alzheimer qui me remet dedans.
De son mariage avec Dennis Thatcher, à son élection à la tête du Parti conservateur, de son passage au secrétariat d'État, à l'éducation, à la guerre des Malouines, les grandes grèves. Aux manifestations contre la fiscalité locale qui entraîne sa chute en 1990. En gros, c'est un peu sa vie politique, privée.
Biopic.
C'est un biopic, voilà, exactement.
C'est qui déjà?
Alors, Margaret Thatcher, en fait. Je pense que tout le monde connaît, mais on va refaire un petit point sur qui était cette personne, puisqu'elle est décédée maintenant. Elle est décédée en 2013 à Londres. Elle est née en 1925, voilà. Pas à Londres, à Grantham. donc elle a été première ministre du Royaume-Uni entre mai 79 et novembre 90. C'est l'une des figures politiques britanniques à la fois les plus admirées et surtout les plus détestées du pays et de l'Europe. Le surnom, la Dame de Fer, qui lui est décerné par un journal de l'armée soviétique qui s'appelle l'Étoile Rouge en 76 et donc qui va rester. Qui symbolise sa fermeté face aux grévistes de la fin de l'IRA provisoire en 1981 et encore aux mineurs grévistes entre 1984 et 1985. Voilà, donc ce surnom, bah, il reste encore, et la preuve, c'est que c'est quand même le titre du film, mais on va voir que voilà, c'est peut-être un peu paradoxal avec le contenu du film. En tout cas, c'est ce qui a marqué les esprits. Donc, associée à la révolution conservatrice des principaux pays occidentaux, l'influence de son passage au gouvernement du Royaume-Uni est souvent qualifiée de révolution, pour les plus sympathiques, autant sur les plans politiques, idéologiques et économiques.
Et pourquoi ça a fait le buzz du coup en 2012?
Eh bien, ça a été effectivement la première grosse production autour de la figure de Margaret Thatcher. Elle n'est pas encore décédée, puisqu'elle est décédée en 2013, le film est sorti en 2012. Donc les critiques des spectateurs sont plutôt moyennes hein, sur ce film. On est à 2,9 sur Allociné, 5,6 sur Sens Critique, un petit peu plus dans la moyenne. Les commentaires des internautes vont beaucoup dans le même sens. En gros, l'idée c'est que ce biopic fait l'impasse quand même sur l'idéologie politique de Thatcher et prend le parti de ne montrer qu'une vie de labeur et de travail acharné. Une femme droite, voilà. Alors, je ne connaissais pas cette personne. Je ne vais pas rentrer dans la prise de position, mais en tout cas, c'est ce qui ressort des commentaires. Et je conclurai cette chronique avec l'avis de Mona Chollet, qui est journaliste et essayiste féministe, et qui a écrit donc à l'époque un article dans Le Monde Diplomatique, donc le journal pour lequel elle travaille. Sa critique, c'est que pour elle, c'est un film apolitique, excluant toute pensée et toute idée sur la vie de Margaret Thatcher. Donc pour elle, les dévastations causées par ses décisions politiques sont systématiquement escamotées pour la représenter, elle, comme la victime, la femme isolée et courageuse en but à l'incompréhension ou à une haine injuste. Les scènes de manifestation, donc il y en a quand même dans le film, mais elles montrent une foule vulgaire, menaçante, venant cogner aux vitres de la voiture officielle où elle se tient, impassible et digne. Dans un cortège, la caméra insiste notamment sur la cruauté d'une marionnette la représentant avec un œil à moitié arraché. Les plans sur le visage mélancolique de la vieille femme lorsque, allongée sur son lit, elle se remémore à quel point tout le monde a été méchant avec elle, contribuent encore à interdire toute critique sérieuse de son action. Voilà.
Ah oui.
Donc voilà, un film qui a l'air plus ou moins buzzé, parce qu'on n'est que deux à l'avoir vu ici, mais qui reste un peu dans l'histoire des biopics, et notamment sur la personne de Margaret Thatcher. Voilà, dommage pour Meryl Streep, j'aime beaucoup cette actrice, mais j'avoue que voilà, pour le coup, c'est un peu une prise de position. Je ne sais pas si ça vous donne envie de le voir du coup ou pas.
Ouais, de ouf.
Ouais, ah oui, carrément.
Tant mieux. Moi, du coup, pas tant, mais je conseillerais This is England sur la période thatcherienne, en fait, et post-thatcherienne sur la série This is England, parce qu'il y a le film et la série, et les deux trucs sont vraiment super sur comprendre en fait comment ça se passait au niveau de la population dans ces années-là en Angleterre.
Autre point de vue, un petit peu plus proche de la réalité. Et donc, pour conclure cette chronique, je vais y arriver, je vous propose d'écouter les Larks avec la chanson Maggie Out. This one's called Maggie, Maggie, Maggie! Out, out, out!
Vous êtes bien sur Prune 92 FM dans l'émission Rétro Buzz. PA, tu vas nous parler de quoi ? De cinéma, mais pas de son ? C'est ça, juste des images qui bougent ?
On va rester un petit peu dans le cinéma. Italienne, des homicides involontaires et des naufrages sur le large des côtes. Donc, on va faire un petit flashback dans les salles obscures à la recherche d'une actu. Mes trois mots-clés, c'est Oscar, record et muet. Oui, je suis sûr que vous l'avez déjà, cette actu pas bien difficile à trouver. Mais allons voir ce que ça donne dans les rues de Nantes.
Ouais, c'est avec Jean Dujardin. Ici, je l'ai vu en plus ce film. Comment il s'appelle déjà ?
Il y a des gens qui cherchent.
Donc c'est The Artist avec Jean Dujardin, c'est ça ?
Bah, je pense que c'est la sortie du film The Artist avec Jean Dujardin. Qui a le rôle principal.
Alors oui, bon, bah, c'est facile et c'est sans faute dans les rues de Nantes. Il n'y a pas beaucoup de suspense cette fois-ci. L'actualité tourne bien autour du film de Michel Hazanavicius, The Artist, avec en vedette, vous l'aurez compris donc, Jean Dujardin, sorti en octobre 2011. Jusqu'ici, tout va bien, mais alors ça parle de quoi, The Artist ?
Je me rappelle que c'est l'histoire d'un homme et d'une femme.
Ouais.
C'est Jean Dujardin, l'acteur principal. Il y a un chien aussi. Voilà, je me rappelle de tout ça, mais honnêtement, je me rappelle plus du film.
Voilà. Voilà.
Ouais, mais pareil, je me souviens plus.
Oui,
non plus,
et ben en fait,
Mais oui, c'est ça, en fait.
C'est ça. On en est à peu près là avec The Artist.
Ça parle d'un artiste.
Donc, Jean Dujardin, pas de problème. Un film muet, pas de problème. En noir et blanc, pas de problème. Mais après, il n'y avait plus grand monde.
Le chien.
Et le chien, oui, tout à fait. Est-ce que, je me retourne vers vous quand même, est-ce que vous sauriez me résumer quand même en quelques mots The Artist, sans prononcer Jean Dujardin, parce qu'on l'a déjà dit 12 fois depuis le début de cette chronique.
C'est l'histoire d'un artiste
ouais.
qui essaie de séduire une femme et qui se sert de son chien. Non ?
Non.
Si ? Donc, aucune idée. Non, je dis ça parce que c'est des éléments...
Pas tout à fait, mais il y a quelques éléments quand même.
Moi, c'est OSS 117.
On va en parler.
C'est OSS 117 qui tombe amoureux d'une femme.
L'Armina.
Et la femme devient plus célèbre que lui. Quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça.
Oh, bien joué.
Bon, je vous fais le résumé officiel Rétrobuzz, si ça vous va. On est en 1927, à Hollywood. L'acteur Georges Valentin, donc il est interprété par Jean Dujardin, auquel cas, si on l'avait pas encore compris, et c'est la star absolue du grand écran. Et puis l'histoire va effectivement se nouer, alors avec beaucoup de trompettes et de swing, autour d'une passion amoureuse entre le Georges Valentin et une jeune actrice, Peggy Miller, interprétée par Bérénice Bejo. Le temps avance, la technologie aussi, et le cinéma muet perd de son éclat. C'est l'arrivée des films parlants en fait. Et du coup, Valentin, lui, reste sur la touche, et Miller, elle prend son envol dans une carrière fulgurante avec l'arrivée des films parlants. Donc c'est un film hommage au cinéma américain, à la croisée des destinées et des époques.
Alors c'est très beau.
Merci.
Mais c'est quoi l'histoire du record alors dans tout ça ?
Bien vu. Donc on retourne dans les rues de Nantes pour voir tout ça.
Le record, je sais pas, c'est quoi ? Genre, c'est pas le film le plus vu en France, je pense, mais c'est le film muet le plus vu peut-être de l'histoire du cinéma, je sais pas.
C'est un record parce que j'imagine que c'est un film muet. Et que, à part des films avec Charlie Chaplin, ça a été assez rare qu'un film ait autant d'entrées au cinéma.
Voilà. C'est quand même marrant d'associer 50 ans d'histoire du cinéma à Charlie Chaplin, en gros. Parce que, en fait, quand on pense film muet, on pense Charlie Chaplin. Il n'y a pas eu que lui, hein, quand même.
Non, moi je pense à Nosferatu, là, le vampire tout maigre avec les deux grandes dents. Là.
Carrément.
C'est pas Charlie Chaplin.
Mais en fait, il y a toute la production cinématographique de la première moitié, première moitié du 20e, mais un peu moins quand même. Elle est muette. Mais c'est pas ça le record au box-office dont il est question, d'autant que, je fais une petite parenthèse, mais The Artist a quand même une concurrence assez rude en 2012 avec des films français qui cartonnent pas mal à l'étranger. On a Intouchable, on en a déjà parlé dans cette émission, on a Astérix et Obélix, me demandez pas lequel, je sais pas, et on a aussi Deux Rouillés d'Os et puis le film Amour, je crois que c'est la Palme d'Or de l'époque, avec Jean-Louis Trintignant et Isabelle Huppert, donc il y a quand même une concurrence assez rude. C'est pas le record au box-office, c'est bien un record au niveau des Oscars, et la cérémonie des Oscars de février 2012, où The Artist rafle la mise avec combien de prix, combien de statuettes d'après vous?
4. 6.
6, ouais, j'aurais dit 6.
1000.
1000 statuettes. Ok, bah 5.
Ah,
4, 6, 5.
Ah, c'est moins que 1000.
Donc, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur principal, meilleur costume et meilleure musique. C'est quand même pas mal. Bah. Non, en fait. Alors, il y a. Ouais, je sais pas. Ouais.
Est-ce que l'Oscar du. C'est quand même pas mal. On peut mieux faire quand même.
Tu vois. Non, mais en fait, après, il y a. Donc, c'est en fait, ça en fait le film français le plus primé de l'histoire des Oscars. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a plein d'autres records. Donc, Jean Dujardin, il est le premier acteur français à recevoir ce prix. Il rejoint un cercle qui était exclusivement féminin jusque-là, avec Claudette Colbert, qu'on salue. Simone Signoret, qu'on salue aussi, Juliette Binoche et Marion Cotillard, qu'on salue moins. Mais voilà, jusqu'ici, on n'avait pas d'acteur donc masculin qui avait remporté ce prix. Azanavicius, lui, il est le second réalisateur français à être récompensé après Polanski. Et puis, The Artist est tout simplement le premier long-métrage français à recevoir l'Oscar du meilleur film.
Oui, en fait, c'est pas étonnant parce qu'on parle d'un film quand même qui parle d'Hollywood et puis ils aiment bien ça, les Américains, les films qui parlent d'Hollywood et du cinéma américain. Puis ils aiment bien les films qui parlent des États-Unis.
Bah oui, c'est ça. Mais oui et non quand même. En fait, c'est là que cette chronique devient intéressante parce que jusqu'ici, vous vous embêtiez. On a d'un côté certaines critiques qui notent quand même l'audace du film, un film muet, un film en noir et blanc, une comédie romantique, à l'heure où quand même on est sur plutôt dans l'avènement des blockbusters à Hollywood. Donc on aime ou pas, mais il y a quand même une qualité formelle du film, et puis le fait qu'il apparaisse un peu, je pense, à contre-courant quand même. donc plutôt pas mal. Mm-hmm. Mais d'un autre côté, effectivement, on a des critiques qui pointent du doigt que le sujet concerne directement les Américains et surtout le jury des Oscars. On a le New Yorker, par exemple, qui parle d'une, je cite, hein, d'une flatterie facile, une célébration du passé et un voyage nostalgique dans l'âge d'or révolu d'Hollywood, prompt à émouvoir la cible la plus large des votants à la communauté des Oscars. Et on a encore d'autres médias qui vont un petit peu plus loin en dénonçant, pardon, excusez-moi, un film conforme au goût du vieil homme blanc, parce qu'on a une étude du Los Angeles Times qui sort à ce moment-là et qui révèle que la communauté des Oscars, donc les gens qui votent, ils sont nombreux pour les Oscars, sont composés à 94% de blancs, 77% d'hommes et 54% de personnes âgées de plus de 60 ans.
Bah tiens, bah, ça donne envie tout ça.
Oui, ça donne envie. Mais alors attends la suite.
Moi ça me donne envie, c'est comme ça, ça me donne envie, c'est tout. Voilà.
J'aime bien les relances comme ça.
Bah, j'aime bien les relances comme ça, voilà. Parce que ça me donne envie. Voilà.
Voilà. Donc le film est assez critiqué et c'est pas fini, parce que ce qui vaut peut-être le plus de critiques à The Artist, c'est que le film jouit d'une extraordinaire campagne de com orchestrée par la Weinstein Company.
Ah.
Oui, on est loin. Ah. Oui, voilà.
Oui.
On a parlé de Polanski tout à l'heure. On est loin hein, des révélations fracassantes à l'encontre d'Harvey Weinstein. On n'en est pas du tout là en 2012. Ça reste juste le big boss du cinéma aux États-Unis à ce moment-là. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter les droits de diffusion du film pour les États-Unis dès 2011. Et puis, il va propulser The Artist à l'international, et notamment aux États-Unis, en le faisant tourner partout, dans tous les festivals. Il aura plus de 100 récompenses en tout. Et dans cette campagne de com', il joue clairement sur l'ambiguïté même de l'origine du film. Olivier Bonnard, du Nouvel Observateur, par exemple, hein, ils sont plusieurs journalistes à noter ça, note que la victoire du film aux Oscars s'explique notamment par l'excellent travail de communication du distributeur américain qui aurait savamment réussi à faire oublier qu'il s'agissait d'un film français, tout simplement.
Mm-hmm.
Ah, voilà.
Cool.
Ouais, cool. Vous l'aviez aimé ce film ou pas?
Bah, on s'en souvient pas, donc...
Ouais, mais sur le coup...
Moi, je crois que j'avais bien... Enfin, j'étais surprise parce que j'avoue que j'avais un peu peur de m'ennuyer, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de son. J'ai rarement vu des films muets, donc... Ou alors, j'étais petite.
Charlie Chaplin, quoi.
Bah ouais, mais voilà, je l'ai vu parce qu'on m'a obligé en primaire. Enfin, tu sais, c'était un truc un peu... j'avais pas envie et j'en ai plutôt gardé un bon souvenir, même si effectivement, je me souvenais pas de l'histoire. Mais je l'ai vu il y a 10 ans et en général, je me souviens pas trop des histoires des films. Mais ça m'empêche pas de l'avoir apprécié sur le moment.
Tu t'es rappelé qu'il y avait un chien?
Oui.
Voilà. Ok, très bien. C'est la fin de cette chronique, mais je vous laisse avec une mise en abîme de la mise en abîme de la mise en abîme. La célèbre Nonsense Song, chantée par Charlie Chaplin dans les temps modernes. Donc vous allez voir, on connaît tous cette chanson, je pense. Là, on parle de génie, on parle de chef-d'œuvre. Petit clin d'œil parce que cette chanson est la toute première fois où le spectateur va entendre la voix de Charlie Chaplin dans un de ses films. Et justement, cette chanson est une sorte de melting pot de langues un peu réelles et inventées. Un grand n'importe quoi, comme pour dire que non, on n'a pas besoin de parler au cinéma pour toucher le spectateur.
Giusto d'ore, je ne tresso che fare, je ne tresti d'avore, je la tu la ti la tua. La spinage o la bouchon, si grette pote bello, si racchi spacaletto, je la tu la ti la tua. Thank you.
sonore pilacine, voulez-vous le taximite? Le junta sous la cita. Tula 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 wa. C'est mon tia si l'amour, le son tia son crevor, le zonche comme soeur, j'ai la peau de sa dilatoire. J'ai notre seule mine, j'ai notre seule consigne. Je laisse trop vite, je la tasse à vilatoire. C'est mon très seul centre, tu vas seul l'autre ventre. Les anches si catonta.
On est de retour sur Prune 92 FM dans l'émission Rétrobuzz. L'émission qui suit donc la tendance avec 10 ans de retard de ton côté, mon cher Enzo. Tu vas nous parler des étudiants et des étudiantes.
Exactement.
Au Québec.
Aujourd'hui, je vais vous raconter une série d'événements qui s'est déroulée tout au long de du février 2012. Grâce à ces trois mots, marche, frais, rouge. Non, je ne parle pas d'une balade un doux matin d'automne. Je parle plutôt effectivement de la grève des étudiants au Québec qui a débuté le 13 février 2012. Donc nous sommes en ce jour du 13 février et nous sommes au début d'un mouvement de grève générale et illimitée. Cette grève est initiée par une association étudiante, la CLASS. La raison de cette grève, c'est que le 18 mars 2011, le Premier ministre et son gouvernement du Parti libéral ont exprimé leur volonté d'augmenter les droits de scolarité de 1 625 $ canadiens sur 5 ans. Le 27 février, le nombre de grévistes va atteindre 65 000 étudiants à travers tout le Québec. L'événement culminant de cette grève va se dérouler le 22 mars avec une grande mobilisation, une grande manifestation à Montréal qui va rassembler plus de 150 000 manifestants et manifestantes. Et donc je vais vous poser une question. Sur les 400 000 étudiants que compte le Québec, combien se sont mis en grève ce jour-là du 22 mars ?
165 000.
C'est plus.
Plus. Ah, juste c'est... prix. Philippe Rizzoli, le micro.
Moi, sur les... 400 000 300 000.
Je dirais les trois quarts.
300 000.
Oh,
300 000.
Allez,
bien vu, Roman.
Trois quarts, il fallait dire le chi.
C'est ok, ça. T'as gagné.
Donc, ce jour-là, nous sommes à l'apogée du mouvement. C'est un nombre assez impressionnant. On n'avait pas vu ça dans les rues de Montréal depuis une mobilisation contre la guerre en Irak. Voilà. La manifestation a surpris les observateurs par son ampleur. C'est ce qui va déclencher sa médiatisation partout à travers le monde. Pour certains observateurs hors Québec, ce rassemblement signalait au reste du monde que le Québec se joignait aux différentes luttes qui se déroulaient dans le monde à ce moment-là, comme le printemps arabe par exemple. D'ailleurs, cette mobilisation québécoise va porter le nom de printemps érable, en référence au nom de la mobilisation.
Hein,
ah oui.
Durant cette manifestation, les actions, les blocages, les grévistes vont aborder des symboles communs. Le plus connu d'entre eux, vous pensez que c'est quel symbole ?
La feuille d'érable.
Bah oui, du coup, la feuille d'érable, non ?
Non. Non, pas exactement.
La tête de caribou ?
Non plus.
Le puck de hockey sur glace ?
Non plus. Ça va être tout... C'est beaucoup plus simple. Hein. C'est beaucoup plus simpliste. C'est un carré rouge, un grand carré rouge que que les grévistes vont déployer sur certains monuments publics de Montréal, sur les balcons d'amphi, un peu partout, sur les vêtements en pins, un peu, voilà, partout. Et donc, on va associer ce carré rouge au slogan « Carrément dans le rouge », hein, en référence à la précarité étudiante.
Ah.
Donc.
Ils aiment bien les jeux de mots dans cette ce mouvement. Hein
et donc, alors.
Ça va, Enzo.
Alors, ouais. Et du coup, la réponse du gouvernement québécois face à cette grève illimitée, c'est quoi?
Et donc, Jean Charest, le Premier ministre à ce moment-là, va tenter de négocier avec les organisations étudiantes. Ça va échouer parce que donc, le 24 avril, il va écarter la classe des discussions, l'association qui avait lancé le mouvement. Et donc, les autres organisations étudiantes vont s'écarter des négociations par solidarité. Un nouveau mode d'action rentre alors en jeu, les manifestations nocturnes, dont la première se déroule le 24 avril donc, 2012. Par la suite, les étudiants et les étudiantes vont être très créatifs durant ces manifestations nocturnes. D'après vous, qu'est-ce qu'ils ont fait durant... Il y a eu à peu près un peu moins de 2 mois consécutivement tous les soirs une manifestation.
Il y a un jeu de mots ou pas? Est-ce qu'on cherche quelque chose avec un jeu de mots? Parce que moi,
non, pas, je pense pas, non.
Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les soirs, c'est ça? Enfin,
les concerts, tous les soirs.
J'ai 3 exemples d'actions un peu...
Du patin à glace.
Est-ce qu'il y a des chouettes et des hiboux au Canada? Ils auraient fait nuit d'hiboux.
Ah, ok.
Nuit d'hiboux.
Merci.
Mais ça va, ils sont pas non plus à ce point.
J'ai pas.
Non. En vrai, non, ils ont même pas pensé au jeu de mots, quoi.
Truc de patin à glace.
Ils avaient installé une patinoire peut-être, je sais pas. Non, mais donc le 30 avril, il y a eu un carnaval nocturne en fait.
Ah
sur glace.
Avec des goûts.
Révolution d'Anaïs.
Sur une autre soirée, il y a eu un sit-in devant la résidence du Premier ministre. Ils étaient donc les étudiants étaient déguisés en Richemont pour ironiser sur la situation. Et puis, lors d'un autre rassemblement, il y avait eu une balade en tapant sur des casseroles. Enfin, ça, ils l'ont fait plusieurs fois, en vrai. Et donc, il y a un slogan qui est lancé durant ces manifestations nocturnes. C'est « Manif chaque soir jusqu'à la victoire ». La répression policière est forte aussi lors de ces manifestations. Donc, notamment après l'adoption de la loi 78 par le gouvernement le 18 mai 2012. Cette loi permettait aux étudiants de pouvoir... suivent les cours qui normalement devaient se dérouler. Et donc, le gouvernement autorisait les professeurs à rouvrir les universités et tout ça. Sauf que, évidemment, ça n'entrait pas dans les plans des grévistes qui risquaient de perdre le combat et leurs revendications. Donc, il y avait des interdictions de manifester proche d'un établissement scolaire, par exemple, des choses comme ça. Une manifestation de soutien s'est déroulée à Paris le 22 mai 2012 et a rassemblé près de 300 personnes. Et donc, également, le 24 juin, fête nationale du Québec, c'est environ 200 manifestants arborant le carré rouge dans le cadre d'une journée nationale de résistance en soutien aux étudiants québécois. Donc, dans plusieurs villes, le soutien au Québec a été montré.
Et donc, comment va finir cette grève, au final?
Eh bien, c'est le mois de septembre 2012 qui va marquer la fin de cette grève. En effet, les Québécois, il va y avoir une élection. Les Québécois vont porter au pouvoir le Parti québécois, qui est un parti indépendantiste. Et donc, le 8 septembre, les présidents et présidentes, les membres des organisations étudiantes proclamèrent la fin officielle de la grève de 2012, se félicitant de l'élection d'un gouvernement promettant d'annuler la hausse des frais de scolarité qui était à l'initiative de cette mobilisation. Le 20 septembre, effectivement, le gouvernement annule cette hausse et les organisations étudiantes font le constat d'une victoire historique de par la grève étudiante, la mobilisation et l'implication électorale des jeunes au Québec.
Comme quoi ça marche, des fois, de manifester?
Bah oui, comme quoi ça marche.
Ah, au Québec.
Et pour évoquer un dernier point, la couverture médiatique que cet événement a eue, donc il y a eu effectivement, ça a été une grève très médiatisée au Québec. Notamment les principaux médias télévisés et écrits quotidiennement en ont parlé hein, parce que ça perturbait notamment tous les soirs en mai-juin. Et puis CUTV, un média étudiant de l'université Concordia, a diffusé des dizaines de manifestations en direct pour promouvoir la grève et les revendications. Selon une étude, les citoyens étaient bien mis au courant des événements, mais pas vraiment du conflit. Des revendications, les représentants, les porte-paroles n'étaient pas invités trop sur les plateaux, hein, un peu après la grève, mais pendant, pas tellement. Et du coup, ils ont jugé, les populations n'étaient pas vraiment informées sur, sur les revendications, les volontés du gouvernement, tout ça. Donc,
ça ressemble au traitement médiatique de chaque manifestation où on dit «
Il y a manif » et on montre des images de... Voilà, et puis on montre des images spectaculaires. Ouais. Et c'est le traitement médiatique moderne, en fait.
Classique.
Et donc, effectivement, moi, j'ai aussi pris cette actu parce que c'est aussi l'actualité dans ce moment, avec notamment les propos d'Emmanuel Macron qui veut rendre l'université encore plus payante. Et voilà, enfin, donc voilà. Et notamment aussi donc avec les blocus qui ont lieu dans les lycées, les lycéens essayent de se constituer des groupes de mobilisation, mais ils sont fortement réprimés aussi. Donc voilà, j'ai voulu prendre ça en résonance avec l'actualité.
Trop cool, bah merci.
Est-ce qu'on s'écouterait pas une petite chanson de fin ?
Eh oui, totalement. C'est Coldplay.
est de retour sur Prune 92 FM dans l'émission Rétro Buzz, l'émission qui suit la tendance avec 10 ans de retard. On a écouté Coldplay avec la chanson Charlie Brown. Et je laisse la parole à notre conteuse préférée, Adriana, qui va nous faire voyager dans le temps.
Ouais, je vais vous faire voyager dans le temps et je vais d'abord en profiter pour lancer notre super jingle. Ah.
Méga, hyper, super, rétro, buzz.
Ah, oula, t'es sûr de toi, là?
Ouais, voilà.
On s'en lasse pas.
Jamais.
On s'en lasse pas.
On s'en lasse pas du tout. Moi, j'ai prévu de nous téléporter au XXe siècle pour une chronique historique. Parce que moi, je vous offre de la qualité. Pas un buzz Beaujolais nouveau. J'offre un vin raffiné, mûr, un buzz exotique, historique, tout droit sorti de 1912. Après vous avoir emmené en Chine pour assister à la naissance de la Première République, après vous avoir parlé de la séparation des continents et de l'incroyable Alfred Wegener, je vais vous parler de l'Amérique latine, direction l'Argentine. Aujourd'hui, la mère castor que je suis va vous parler ni de tango ni de dulce de leche, mais plutôt de politique, démocratique et législation. Je vais vous planter le décor. On est à la fin du 19e siècle, en 1880, l'Argentine qui entre dans une période singulière de son histoire, la République conservatrice. Cette période est caractérisée par une forte croissance économique et par une forte croissance démographique. Les techniques agricoles s'améliorent, les réseaux de transport se développent, les immigrés venus du vieux continent font exploser les statistiques démographiques et l'État promeut l'instruction publique. Bref, c'est l'émulation totale. À la tête de l'État, c'est le gouvernement PAN. Pour les personnes ayant des notions d'espagnol, je ne parle pas du pain, mais du gouvernement PAN comme parti autonomiste national. Et non pas comme cet assemblage de gluten que nous mangeons tous les matins, les jours de pluie, comme les Bretons que nous ne sommes pas réellement. Parce que oui, je dois le préciser, nous ne sommes pas Bretons. Pardon, je m'égare, hein, mais rien ne sert de remettre ce débat sur la table. Qui sait, peut-être que je profiterai d'une future chronique pour en parler avec plus de décence et rappeler que les galettes, les drapeaux et le château des ducs ne suffisent pas à rendre cette ville bretonne. Malheureusement. Je dénonce toujours. Mais pour en revenir à ce que je disais, du coup, le Parti autonomiste national argentin est un parti d'idéologie libérale. Dans ce contexte, sa croissance et de parti nouveau, c'est Roque Sáenz Peña qui va diriger le pays en tant que président élu en 1910. Candidat d'une liste unique, il était auparavant ambassadeur de l'Italie. Et le fait d'avoir observé les bienfaits de l'ouverture du suffrage universel et la modernisation des lois électorales en Europe va le pousser à vouloir changer des choses dans son propre pays. C'est comme ça qu'il décide d'œuvrer pour rendre les élections plus démocratiques, afin d'encourager les Argentins à voter. Parce qu'en fait, en Argentine, il y a le droit de voter, mais les gens ne le font pas. En partie parce que ce qu'on appelle le vote chanté. En fait, le vote était public. Du coup, ça décourageait beaucoup les gens à voter. Les votants choisissaient aussi une seule liste qui remportait 2/3 des postes et la seconde liste la plus votée, elle remportait que le tiers restant, ce qui est du coup très peu démocratique, comme vous pourrez le remarquer. En plus, il était très courant que les fraudes électorales aient lieu. On retrouvait par exemple le vote de personnes mortes dont les noms avaient été utilisés par les commissions de recensement. Le vote, ouais, c'est sympa. Les bulletins de vote des candidats étaient parfois remplacés ou alors les votes étaient directement achetés. C'est pas ouf. Des fraudes que Roque Sáenz Peña voulait faire cesser. Il proposa une loi établissant le suffrage universel masculin dans tout le pays. Tous les citoyens argentins, natifs ou naturalisés, âgés de plus de 18 ans, devraient voter. Car oui, voter en Argentine est devenu à cette époque un devoir, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Sáenz Peña va aller plus loin et rendre ce vote obligatoire secret. Et oui, cela nous paraît désormais évident de voter dans nos petits box cachés derrière de petits rideaux bleus, mais ce ne fut pas toujours le cas. Ces mesures deviennent officielles le 13 février 1912, lorsque sa loi est promulguée. Le suffrage universel masculin est né en Argentine. Il faut cependant souligner que les citoyens argentins majeurs n'ont pas tous le droit de vote. Je sais, vous me voyez venir, les femmes. Les femmes argentines n'obtiennent le droit de vote qu'en 1947, lorsque Eva Perón, actrice, femme du président Juan Perón, mais aussi figure féministe, va les emmener jusqu'au vote. Mais les femmes ne sont pas les seules à être écartées du pouvoir. Non, non, les hommes de 70 ans ne sont pas obligés de voter. Les hommes fous d'église, et là je nomme deux catégories différentes, ne le sont pas non plus. Les militaires, les hommes atteints d'un handicap mental ou les mendiants, ou encore les détenus et les récidivistes condamnés pour des délits relatifs à la propriété, oui c'est très précis, ne peuvent pas voter non plus.
Oui, quand même.
Voilà.
Et les enfants ?
Bah non, du coup, il faut avoir 18 ans pour pouvoir voter.
Bon, bah d'accord.
Voilà, cette chronique est terminée. J'espère que vous l'aurez trouvée intéressante. Je tiens à dire que les deux premières musiques sont issues de Secrets d'Histoire. Donc voilà.
Oui, j'ai reconnu.
T'as reconnu, je suis très contente. Voilà.
Stéphane Bern.
On l'aime. On l'aime, on l'aime.
Trop bien. Merci, merci Adriana. Est-ce que t'as un petit son ou pas ?
Non, j'ai pas de petit son.
Bah non, bah je lance un truc en l'air. Alors, très bien.
Eh ben, on arrive à la fin de cette émission, c'est ça ? On espère que cette heure consacrée à quelques buzz de février 2012 aura comblé votre cœur de joie. Tiens, j'ai envie de dire ça.
Cœur de joie ?
Ouais, comblé ouais. Votre cœur de quoi ? Bah de joie.
De joie.
Avant de se quitter, on va quand même vous dire à quoi vous avez échappé. Parce que on aurait pu parler de Will.i.am et de Puff Daddy, de Kanye West, de Chris Brown, de Kim Kardashian et d'autres stars étonnantes qui apparaissaient dans l'horrible chanson Mega Upload Song. Mais il faudra au moins 3 épisodes de Retrobuzz pour aborder Kim.com. Vous vous rappelez de Kim.com et son incroyable talent pour le mauvais goût ?
Non, je m'en souviens pas. On aurait pu vous parler de la mort de Whitney Houston qui est décédée il y a 10 ans, en février 2012. Et j'avais hésité, j'avoue, avec cette actualité. Mais voilà, on a déjà parlé de la mort d'une grande chanteuse le mois dernier, donc je me suis dit qu'on va peut-être pas partir sur cette thématique tous les
ça
mois.
Ça fera redondant.
Ouais, ça fera redondant et un petit peu triste, mais on pense à toi, Whitney.
On aurait pu vous parler de Brigitte Bardot, qui s'est dit indignée après l'abattage des daims en Seine-Maritime le 16 février 2012. Ouais, moi j'ai des actus, ouais. Sauf qu'on n'a jamais demandé aux daims s'ils étaient indignés par le rabattage de Brigitte Bardot pour le Front National. Donc on n'en a pas parlé.
On aurait pu vous parler du doigt d'honneur qu'a fait la chanteuse Adele aux Brit Awards en 2012, au moment où l'organisateur James Corden a stoppé son discours, mais en fait elle avait totalement raison. Voilà.
Effectivement, pas cool. On aurait pu vous parler du lancement de l'émission The Voice en France, qui nous a offert tellement de bons talents. Ouais, déjà. Ouais, c'est vrai. On dirait pas.
Très long.
On aurait pu parler de l'échec pathétique de la youtubeuse Glozel au Cinnamon Challenge, mais ça vous aurait donné envie d'essayer de manger des louches de cannelle en poudre. Et j'ai vraiment pas envie d'avoir votre vomi sur la conscience.
Ah, c'est bon la cannelle. Hein,
ouais. Ah bah tiens, bah mange une cuillère de cannelle, tiens, pour voir.
Allez, j'ai essayé. On aurait pu parler de la vraie info. On aurait pu... Bah, je crois que c'était ça, en fait. C'était le challenge, non, c'était il y a 10 ans, moi je sais plus.
C'est là, mange ta cannelle.
La Madeleine.
On aurait pu vous parler de la grande vague de froid qui a touché la France pendant 13 jours du 1er au 13 février 2012. Neige abondante, événement historique, mais je ne savais pas à quel fixe elle en parlait, donc j'ai bien bossé. Voilà.
On aurait pu vous parler de ce cascadeur Jeb Corliss, c'est pas si facile à dire, connu à l'époque pour ses exploits d'homme-oiseau, sauf qu'en février, dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, il heurte des rochers lancés à 200 km/h, bilan 2 jambes cassées, et plus de 4 millions de vues sur la vidéo de son crash qu'il postera bien évidemment sur YouTube.
Wow.
On aurait pu vous parler de Mossa, je sais pas si vous avez reconnu le début, je connais que les deux débuts, de I See Te Pego, j'ai essayé de faire mon meilleur accent portugais, de Michel Tello, la chanson a été numéro 1 pendant 9 semaines. Dans tous les campings et pendant 9 semaines en France à partir du mois de février.
Ah ouais, alors le camping en février, moi je veux bien voir.
Ah non, mais c'est un buzz permanent sur plusieurs années.
Ouais. Et ben avant de conclure, parce qu'il est l'heure de conclure cette émission malheureusement,
déjà
on vous invite évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Le nom de notre émission c'est Retrobuzz Prune tout attaché. Pour découvrir les coulisses de cette émission, des belles photos en direct ou presque, vous donnez nos retours, n'hésitez pas. Et puis vous pourrez évidemment retrouver cette émission en podcast très très bientôt sur le site de Prune, www.prune.net. On va vous laisser avec la playlist de Prune 92 FM et on vous donne rendez-vous le mois prochain. Salut.
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 Salut. Salut.